Alors, on commence une série de cours, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en ouverture, sur femmes artistes. Et effectivement, j'avais autrefois dit que c'était une longue histoire. Évidemment, c'est une longue histoire, puisque l'humanité, elle est donc constituée d'hommes et de femmes. Et évidemment, depuis toute éternité, là, on peut le dire, effectivement, parce que ça fait partie de notre état, notre façon d'être, et puis notre biologie. Et par contre, dans la culture, effectivement, ça se traduit de façon très spécifique. Et on peut dire que depuis plusieurs millénaires, l'histoire de l'art a été accaparée, faite en grande partie par les hommes. Et beaucoup de femmes en ont été soit absentes, soit représentées de façon très stéréotypée. Et comme on dit, comme l'histoire parfois est faite par des gagnants, eh bien on peut dire qu'une bonne partie de l'histoire de l'art a été faite par des hommes qui se sont représentés, qui ont été aussi artistes et qui ont écarté parfois les femmes artistes. Donc ça sera surtout la deuxième volée, hein, de. On verra les femmes artistes un peu oubliées, ou les femmes artistes contemporaines qui, là, ne sont pas oubliées, mais qui prennent toute leur place légitime dans la création. Et puis, vous avez la première partie, ça va être un petit peu plus complexe, c'est de voir d'où vient justement, on va dire, cette inégalité de genre dans l'histoire de l'art et dans les pratiques artistiques. Alors, c'est un vaste sujet, d'autant plus, je veux dire, complexe, que beaucoup de recherches sont récentes. Et par exemple, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est le site de Çatalhöyük en Turquie, qui lui-même avait été ce site-là. Alors, j'ai une carte ici. Il se trouve à peu près ici, en pleine Anatolie, ici, ou Anatolie centrale. Et vous avez ici quelques cartes qui montrent en gros une bonne partie des cités ou de l'activité humaine avec une prodigieuse richesse de sites qui sont découverts, y compris très récemment et explorés de plus en plus fréquemment, parce qu'on en découvre, dans cette partie que vous identifiez aussi comme extrêmement conflictuelle, y compris actuellement, Irak, Syrie, Iran, Jordanie, Palestine, Liban, Iran, enfin je ne vous fais pas Turquie, etc., Kurdistan, vous voyez qu'on est au cœur aussi de conflits. Donc, c'est y compris du point de vue de la recherche très complexe. Et le site de Çatalhöyük n'est connu que depuis, allez, un peu plus d'une vingtaine d'années, avec des interruptions énormes de plus de 15, 20, 30 ans dans lesquelles le site n'a pas été exploré, plus ou moins redécouvert. Et avec, en plus, il faut le dire, en Turquie un peu moins, mais dans beaucoup de ces pays, une certaine réticence à découvrir tout ce qui est, on va dire, pré-islamique. Donc, vous avez là aussi une difficulté. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'archéologues turcs qui sont très intéressés, au contraire, qui sont passionnés par l'idée de révéler un passé extrêmement riche. Et je voulais vous le montrer. Alors, ce qui caractérise ces régions, et y compris là, je vous montre une partie de l'Afrique du Nord ou de l'Arabie, etc., une période aussi de la préhistoire qui est souvent, là, ça m'énerve, qui est souvent mise de côté. Souvent, vous entendez, si vous écoutez beaucoup d'émissions sur la et la préhistoire, vous entendez parler les chasseurs-cueilleurs et hop, les agriculteurs. On passe pas de la chasse à la cueillette à l'agriculture et à l'élevage en même pas en un siècle. Il y a toute une période qui est très souvent oubliée ou non précisée, une zone floue. Or, c'est une zone passionnante. C'est la période du Mésolithique, en gros. Mésolithique, entre le Paléolithique très ancien, par exemple Lascaux, la grotte Chauvet, qui dure presque 30 000 ans, et puis le Néolithique, si vous voulez, ben Stonehenge, par exemple, qui est venu que de 5 000 ans, avant 3 000 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Vous avez une zone grise et d'une richesse incroyable, qui est à peu près de 15 000 ou 12 000 avant notre ère, jusqu'à 8 000 à peu près avant notre ère, donc ça va être 4, 5, 6 000 ans selon les zones, dans laquelle vous avez des activités humaines qui ensuite sont difficilement identifiables. Ce ne sont plus exclusivement des chasseurs-cueilleurs, pourrait-on dire, ce ne sont pas encore des agriculteurs, c'est le début de l'élevage, c'est plutôt une période de pastoralisme, et ça vous le voyez très peu indiqué. Le pastoralisme, et de ce qu'on va appeler le début aussi d'une certaine domestication. Domestication, mais qui est lente, évidemment. Du jour au lendemain, on ne domestique pas un cheval ni un chien, encore moins des bœufs, des élans, des rennes, etc. Donc, et toute cette zone, alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est là que vont se nicher une multitude d'œuvres d'art et de sites dans lesquels, alors pourquoi le rapport avec les femmes, eh bien, vous verrez, sera assez évident, enfin assez évident, discuté, mais évident, on ne parle pas de matriarcat. Mais toujours est-il que ces sociétés-là, à l'évidence, alors maintenant c'est repris clairement, mais ne possèdent pas, on va dire, le vivant. Les chasseurs-cueilleurs non plus. Mais quand vous êtes pasteur, le troupeau ne vous appartient pas vraiment, vous ne pouvez pas l'enclore, vous ne pouvez pas le tatouer, vous ne pouvez pas le contraindre, vous êtes obligé de l'accompagner et de le suivre. De la même manière, la plupart du temps, les céréales ou les sont, on commence juste à les contrôler un petit peu. Mais si vous voulez, vous n'avez pas encore de propriété de champ, etc. Donc, on peut dire que globalement, il n'y a pas de hiérarchie du vivant. Et on le voit assez clairement dans les œuvres d'art, et c'est ce que je voulais vous montrer. Et on va voir comment le site de Çatalhöyük en Turquie est une sorte de zone de transition. Et on verra aussi comment les figures féminines sont extrêmement spécifiques et très intéressantes du point de vue de la construction de certains mythes. Alors, alors, les cartes, vous pouvez les retrouver, mais vous avez les noms. Alors, l'Afrique du Nord nous amènera surtout dans toute cette zone qui n'est pas désertique, du Tassili, Nadjer, etc., qui était une zone fertile dans laquelle on verra que justement, vous aviez des traces et pas de l'élevage, mais du pastoralisme à une échelle absolument gigantesque sur des milliers de kilomètres. Parce que toutes ces zones-là, plus en plus, c'est pareil, elles ont longtemps été négligées, y compris d'un point de vue culturel. Ce qu'il ne faut pas oublier, alors ça, c'est que je développerai ça, y compris dans les cours précédents, c'est que notre vision de l'histoire de l'art est extrêmement marquée par le classicisme. Et une tradition, on va dire, biblique et grecque, mais qui nous a fait, et ou classique, qui nous a fait considérer avec un peu de mépris ou de distance tout ce qui n'était pas de tradition grecque et biblique, y compris même dans les traditions celtiques ou germaniques, qui sont souvent un peu méprisées. Je termine cette longue introduction par une information toute simple. Pendant des années, vous avez eu, par exemple, l'école française. En archéologie, l'école française d'Athènes, l'école française de Rome, l'école française du Caire, ou d'Alexandrie, par contre. Vous n'aviez pas du tout d'école française d'archéologie, donc de Paris, pour savoir ce qu'ont fait les Celtes, les Gaulois, les Gallo-Romains ou les ancêtres. C'est-à-dire que même la recherche du point de vue du territoire, on va dire, hexagonal, est extrêmement déficiente. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on s'intéresse au passé, effectivement, Celtes ou Gaulois. C'est assez, ou alors c'était considéré comme un peu méprisé. De la même manière qu'on méprisera le roman et le gothique par la suite comme étant des choses qui sont pré-classiques, du point de vue du classicisme, de la Renaissance, etc. Donc toutes ces zones-là, sans compter un certain mépris colonial pour l'Afrique du Nord, la Turquie, sont considérées comme, ou l'Afrique en général, comme des zones un peu non civilisées. Et évidemment, ici, on arrive dans quelque chose, j'espère vous montrer qu'il n'en est rien, évidemment. Alors, voilà. Alors, attendez, il y a juste une chose, je mets en grand écran. Voilà la figurine la plus étonnante découverte à Çatalhöyük. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais vous avez une femme, évidemment, genrée, par les seins, le ventre, etc., qui trône, donc assise, sur un trône dont les deux accoudoirs sont faits de deux animaux identifiés à des félins. Identifiés à des félins. Et alors, je vais vous montrer plusieurs. C'est une petite figurine, on la voit ici, avec un ventre, etc. Anatomiquement, même si elle est très forte, on va se rendre compte que c'est remarquablement travaillé et étudié, que ce soit par exemple les plis des seins, des cuisses, des genoux. Aussi au niveau des mollets sur les chevilles, donc c'est quelque chose, c'est pas du tout une maladresse, c'est une construction. Et elle est ici Non pas debout, comme on verra certaines, entre guillemets, Vénus, terme est impropre, préhistorique, même si le corps, on peut dire, de ces femmes assez fortes, pas toutes les Vénus préhistoriques, certaines sont comme ça, mais si à cette fois-ci, elle est assise, elle trône et elle dompte des animaux sauvages. Alors, cette petite figurine, elle est assez petite, a été trouvée, donc voilà, une quarantaine d'années à peu près, c'est tout, donc c'est récent, et au milieu d'une multitude de statuettes, figurines de différentes natures et de différents statuts, sur le site de Tiwantinlhéu, que je vais vous présenter aussi tout à l'heure. Alors là, voilà, sous plusieurs angles, avec, elle est, comment on dit, stéatopie, c'est-à-dire avec des fesses assez développées, mais regardez, par exemple, le pli des genoux, y compris sur le dos, la structure de la colonne vertébrale. Donc, vous avez ici, y compris, une très subtile analyse, même anatomique. On n'est pas du tout dans un travail maladroit. Tout ce qui est fait est parfaitement maîtrisé. Et regardez le visage, les nez, les proportions, l'équilibre, même le regard, les oreilles. C'est absolument remarquable. Alors, c'est une terre cuite. Et voilà. Alors, la date, effectivement, on est en plein dans la zone dont je vous parlais. C'est à peu près... voilà, 10 000 ans, c'est 8 000 before Christ, hein, donc c'est 8 000 ans avant notre ère, donc plus qu'à 10 000 ans. Donc on est en plein, si vous voulez, dans cette période du Mésolithique. Et on est dans cette zone un peu tampon entre le passage chasseur-cueilleur et agriculteur et éleveur. Alors, voilà d'autres figurines aussi qui ont été trouvées au même endroit. Au même endroit, et vous avez là... toujours ces femmes avec une anatomie alors, remarquablement reprise, y compris les restes des bras, le profil, les doubles mentons, donc d'une très grande subtilité, toujours les cuisses, un physique un peu sous-mot, qui se tient les seins, là on verra ça plus tard, et là encore le site dans lequel elle a été trouvée, et vous avez aussi d'autres variantes, c'est-à-dire que c'est pas un figures singulières, ce sont des figures qui vont être récurrentes, toujours sur ce site de Châtel-Lyon, dans lesquelles donc, vous avez une sorte de dommage très clairement fait à des figures féminines. En voilà d'autres, avec ici une sorte de statue couple, des statues allongées, des statues assises, assez remarquables, avec à peu près le même physique, donc plusieurs traces ne sont pas les mêmes, hein, que vous voyez, donc là aussi très émouvante, du point de vue y compris des postures, parce qu'on est moins... dans quelque chose qui installe un pouvoir en étant en trônant, mais là, on est dans quelque chose qui évoque un peu plus aussi le repos, une certaine intimité. Donc là, vous avez un témoignage très émouvant, alors pas évident à interpréter, évidemment. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit de la même personne, parce qu'on a l'impression d'avoir aussi la tête est assez proche. Là, on n'a pas la tête, mais vous avez des interrogations évidentes. Et celles-ci de personnages alors, qui sont difficiles à identifier au niveau du genre, peut-être un corps un peu plus petit, un enfant, etc. Alors, apparemment, ces sculptures n'étaient pas associées à des sépultures. Donc là aussi, c'est quelque chose dont le statut de ces sculptures reste un peu complexe. La sculpture trônante, on va voir, on peut l'identifier assez clairement, on pourra l'identifier assez clairement à une figure mythologique et de divinité. On va voir pourquoi, parce qu'elle aura une multitude, on va dire, de descendance. Et en Anatolie, au Mésolithique, parce que là, vous avez le site de Tchatalouyou, mais quand on fouille en Anatolie, des sites, il y en a des dizaines, voire des centaines. C'est vraiment d'une richesse absolument prodigieuse. Et on continue à en découvrir. Et vous verrez aussi les sites, du point de vue topographique, sont aussi absolument fascinants. Et vous avez ici des femmes qui ont une anatomie peut-être moins forte, mais qui ont toujours cette posture aussi de tenir les seins, etc. Alors, évidemment, le fait de tenir les seins associé à l'idée de fécondité ou de fertilité de façon assez claire, mais on dirait pas que ça, vraisemblablement, parce que la figure assise montre autre chose, en étant assise et en ayant les bras sur deux bêtes fauves. Alors, je continue à vous montrer quelques figures. Alors, voilà d'autres sites, à Tchilalouyouk, hein, qui est plus vers l'ouest. Tchilalouyouk, hein, vous avez vu, est ici, au-dessus de la crête, et vous avez Achillar, et plus ici. Et vous avez encore des statuettes qui sont très variées. Alors ça, ce sont des dessins qui reprennent effectivement certaines statuettes. Celle-ci est assise aussi sur un fauve. Elle tient dans les bras une sorte d'animal, donc qui est, on va dire, apprivoisé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et là, elle tient dans les bras un enfant. Hein, et avec une posture aussi accroupie, etc. Donc le thème de la féminité est varié, il n'est pas unique, il n'est pas non plus uniquement fantasmé sur une figure de pouvoir, mais associé à différentes valeurs. Et là, aussi chose très claire, là, vous n'avez pas de statuette humaine, pas de statuette masculine. Là, j'ai fait un lapsus monstrueux. Ah non, moi je n'y suis pas allé, je rêve d'y aller, j'espère y aller. Et alors maintenant, il est, vous savez, c'est un site très protégé, il y a plusieurs sites turcs qui sont remarquablement maintenant mis en scène. Alors que quand on voit au début, c'est vraiment un milieu de presque des zones presque désertiques maintenant. Alors là, on va continuer à en voir d'autres. Là, vous aviez le site de Hachilar, qui lui aussi est en Anatolie, et regardez quelque chose qui est du repos, un certain laisser-aller remarquable, avec les jambes de côté, etc. Cette figure presque souriante, avec cette fois-ci une approche artistique plus claire. On est moins dans l'anatomie, on a presque une dimension, on n'est pas loin d'un certain Matisse ou de figure de Henri Moore, hein, sur les reclining women, etc. Donc des figures qui sont aussi presque stylisées. Donc, on a une quête esthétique évidente. On est au-delà d'une figure, on pourrait dire, divinisée, mais vous avez un art des formes, des postures, y compris de ce qu'elles peuvent suggérer comme un bien-être, une certaine sérénité, sérénité qui se voit dans la posture. On n'est pas du tout dans la tragédie, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans cela. Et là, vous avez une figure qui s'éloigne, pourrait-on dire, des figures du Teller, on pourrait dire, associé à une certaine maternité ou fertilité. Et là aussi, j'aborderai la question tout à l'heure, il faut faire attention parce que la fertilité, par exemple chez les chasseurs-cueilleurs, n'était pas forcément un cadeau, parce que si on était nomade, avoir des enfants, les trimballer, etc., c'était pas à nourrir aussi, c'était plus complexe. Donc, si vous voulez, il n'y a pas forcément un culte de la fertilité ou de la procréation, puisque bon, ça reste quand même la vie, évidemment, ça reste fascinant. Et évidemment que ça a toujours été une sorte de mystère extraordinaire, ça l'est encore même, la vie. Donc, si vous voulez, on peut imaginer que les femmes, en accouchant et en étant enceintes, etc., portant l'enfant, ont quand même toujours fasciné hommes et femmes, évidemment. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure, mais l'idée d'avoir beaucoup d'enfants n'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable pour ces peuples-là. Et donc, vous voyez, là encore, on voit aussi une figure, cette fois-ci avec le petit animal, et là, avec ce qui semble être peut-être un enfant, et on est toujours dans ces mêmes dates. Donc, vous voyez, c'est des périodes qui sont, d'un point de vue artistique, extraordinaires de production, quantité, de variation, beaucoup plus variées que ce que l'on pourrait croire, beaucoup plus variées même que les Vénus paléolithiques que l'on trouve, qui sont presque toujours un peu figées, sans tête, dans des postures un petit peu hiératiques. Et voilà. Et alors, vous avez des variations aussi, non seulement, j'ai parlé d'Anatolie, mais qui vont, on se rend compte que ça essaime, alors à peu près dans les mêmes années, mais c'est quelque chose qui est partagé avec des marquages régionaux, des styles régionaux assez identifiables, comme, et on est toujours autour. Hein, alors ça peut être la Roumanie, ça va jusqu'à Malte avec cette figure extraordinaire que certains peut-être connaissent s'ils sont allés à Malte, de cette femme allongée, endormie, vêtue cette fois-ci sur un lit, quelque chose d'une beauté, d'une originalité incroyable, mais qui nous signale, même si je ne vais pas faire la surinterprétation, que vous aviez des cultures qui avaient un regard sur le corps féminin, sur les femmes, sur le rapport au monde, y compris sur le fait du bien-être, d'une certaine sérénité, d'une certaine force, qui est assez évidente. Et puis des soucis, on va dire, esthétiques, puisque les déformations, le goût de l'épure, la qualité des formes, des galbes, c'est quelque chose qui est évidemment recherché. Alors, On voit souvent aussi dans la quête esthétique une dimension très spirituelle, c'est pour aller au-delà de l'apparence aussi, de façon très claire. Par exemple, les visages, la stylisation, c'est une façon de dire plus que le corps tel qu'on peut le percevoir à première vue, etc. Alors, voilà le site de Çatalhöyük tel qu'il devait être, et c'est en ce sens-là aussi qu'il est stupéfiant. C'est que c'est une véritable ville. C'est une véritable ville, et on considère qu'il y avait à peu près 8000 habitants, donc c'est important. C'est une ville dans laquelle il n'y a pas de rue, ni de place, ni de plan concentrique. Toutes les maisons sont un peu... Alors, les archéologues les comparent aux villes des Indiens Hopi en Amérique, les Amérindiens près du Mexique, hein, qui sont effectivement des maisons dans lesquelles on rentre par le toit, par les greniers. Donc, si vous voulez, c'est très clair, et c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Ce qui est, alors voilà, une reconstitution claire de ce qu'elle pouvait être. Alors, il y avait deux zones, il y avait une partie ici, il y avait le fleuve, et il y avait aussi, je crois, une autre partie de la ville de l'autre côté du fleuve. Et vous avez ici, voici les fouilles, sont stupéfiantes parce que ce qu'ont découvert aussi les archéologues, c'est que les fouilles sont sur plusieurs niveaux, puisque ça s'étale sur plusieurs milliers d'années. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait, parce que les fouilles sont très bien ordonnées, ils se sont rendus compte que les maisons, les appartements, au bout de 80 ans à peu près, étaient nettoyés, vidés, comblés, et on reconstruisait par-dessus à peu près la même chose. Et puis, c'est pareil, de génération en génération, on reconstitue. D'où les étagements qui sont assez... Et donc, aussi, il y avait des sépultures, les personnes décédées étaient souvent enterrées dans la maison, sous terre, comblées, recouvertes, et ensuite on couvrait, etc. Et on recomposait. Et on accédait par des échelles, par le toit. Il faisait très chaud, c'est une bonne manière d'avoir de l'ombre, etc., de se protéger. Mais ce que l'on a constaté aussi dans cette cité, une des premières cités, c'est plus ancien que Jéricho, mais enfin, on n'est pas loin. Toute cette zone-là, en fait, est le premier, toute cette zone, le Proche-Orient, croissant fertile, Kurdistan actuel, etc., Jordanie, etc., c'est vraiment la naissance aussi de villes, mais qui ne sont pas du tout les villes telles qu'on peut les concevoir, nous, maintenant. Ce sont des assemblements, des réunions de personnes. Mais, par exemple, il n'y a aucun palais, il n'y a aucune place centrale, il n'y a aucune maison plus grande que l'autre. Tous les archéologues, quels qu'ils soient, quelle que soit leur idéologie, s'accordent à dire que c'est une société extrêmement égalitaire. Il n'y a pas du tout de marque de distinction, si vous voulez, sociale dans ces établissements-là. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et on va corréler ça, justement, avec le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie sociale, avec l'idée qu'il y aurait sans doute, pas de hiérarchie genrée non plus. Ce sont aussi des sociétés dans lesquelles, et vous allez voir, on commence à développer le culte taurin de façon assez évidente. Dans partout, les quelques pièces assimilées à des sanctuaires, vous avez ce qu'on appelle des bucranes, c'est-à-dire des crânes de taureaux ou de bovidés. Soit ce sont des vrais crânes, et on voit ici deux femmes en train de fouiller et de gratter, telles des crânes ici avec des cornes, soit c'était des fausses cornes, c'est-à-dire que vous aviez des représentations de bovins. Mais toujours est-il que la figure bovine est une figure absolument centrale et culturelle. Et vraisemblablement, ce qui est révéré ici, c'est le début justement d'une domestication progressive des grands bovins, qu'on ne chasse plus, qu'on ne voit plus au lointain, mais qu'on commence vraisemblablement à apprivoiser, à savoir plus ou moins accompagner. Alors, vous avez aussi une chose qui est complexe, c'est que si vous avez des bovins et que vous voulez les garder auprès de vous, soit il faut les enclore, mais aussi il faut les nourrir. C'est assez complexe, parce que les chasseurs-cueilleurs n'ont pas ce problème, les animaux se nourrissent tout seuls. Les pasteurs et les groupes, le pastoralisme aussi, ils suivent ou ils accompagnent les animaux qui vont se nourrir tout seuls, puis ensuite, ils les cadrent plus ou moins, ils en prélèvent de temps en temps, ils les réunissent, et puis voilà. Mais si vous voulez, vous n'avez pas d'appropriation du vivant ni des animaux. Là, on commence vraisemblablement à se dire, parce que dans le même temps, on a trouvé autour de Çatalhöyük des débuts, d'ailleurs le dessin ici montre, des débuts d'agriculture, c'est-à-dire de céréales qui commençaient visiblement à être quand même semées. Par contre, ce que l'on voit ici, c'est que, à la différence même de de nos sociétés, où vous avez l'agriculteur ou le paysan ou le propriétaire terrien qui a sa ferme, ses animaux, ses terres. C'est ici, visiblement, les habitants ne possèdent pas les terres. C'est une propriété aussi visiblement collective des animaux et des terres, puisqu'ils ne peuvent pas, y compris ils ne sont pas au milieu de leurs terres. Donc vous avez des éléments, on va dire, sociologiques, des éléments, y compris historiques, qui nous incitent à penser qu'on est, bon, c'est pas moi, je ne l'invente pas, qu'on est devant une société égalitaire et qui donc a un rapport, y compris à la nature, bien spécifique, qui est le début de, on va dire, ben, d'une certaine domestication, mais qui se fait, on va dire, en douceur, avec un certain équilibre, en transition entre un pastoralisme et de l'élevage. Alors voilà la reconstitution qui a pu être faite de façon sans ambiguïté, sans surinterprétation, puisque l'état de conservation de la ville est tel que, sans problème, ils ont pu reconstituer des pièces telles qu'elles étaient à l'édifice. Et vous avez ici, justement, une pièce qui est assez célèbre, puisque vous avez une peinture assez étonnante. Certains se demandent s'il ne s'agit pas du plan de l'agglomération à un moment. Et chaque petite case est sans doute une habitation. Et certains sont même allés jusqu'à se demander si les deux formes ici n'étaient pas les collines que l'on voit depuis Châtel-Lyon. Donc vous avez ici aussi une inscription dans le paysage qui est vraiment très intéressante. Et puis vous avez ici ce qu'ils ont appelé une des salles, parce que vous avez vu que c'est sur plusieurs niveaux, puis il y en a beaucoup, hein, une des salles dans lesquelles on a trouvé le plus de crânes et qu'on certains pensent être une sorte de lieu votif auprès des boucranes. Mais les boucranes, donc ces têtes d'euros, etc., pouvaient être aussi dans l'espace privé. Voilà une autre. Et on les voit aussi associés à la sépulture. Donc on est dans une dimension sacrée, puisqu'effectivement, on a quand même une sorte de vénération pour un type d'animal, et associé aussi à la vie, à la mort, puisqu'on vit aussi avec ces boucranes, mais on sait aussi qu'il y a les personnes enterrées ici. Voilà notre reconstitution. Là, ce sont des reconstitutions de ce qu'on appelle les bucranes. Alors, vous avez aussi à Châtel-Lyon, qui, en ce sens-là, c'est extrêmement riche, une fresque, parce que, évidemment, comme c'est sur plusieurs époques, vous avez aussi plusieurs styles, plusieurs traces. Et là encore, les archéologues s'interrogent. Vous avez une fresque murale d'un grand bovin, assez gigantesque, autour duquel vous avez d'autres animaux, des humains, qui sont autour, et on voit des chevaux. Alors, on verra que cette période-là, d'ailleurs, mésolithique, parfois elle s'appelle dans certaines régions le bovidien, le bubalin, le camélidien, etc. Ce sont des chameaux, des bovins, etc. Et en tout cas, elle se caractérise aussi par la domestication, et ça c'est très clair, des chiens et des chevaux, qui sont les premiers animaux qui ont été domestiqués. Les chiens, en les affaiblissant de façon à ce qu'ils deviennent dépendants des humains, donc on peut leur faire, mais la plupart du temps, chiens, chevaux ou dromadaires et chameaux, c'est aussi pour garder les troupeaux. Donc c'est associé au pastoralisme et aussi plus tard aussi à l'élevage, puisque le chien va garder le troupeau et le cheval ou le dromadaire permet aussi de rattraper le cow-boy. C'est ça, permet d'accompagner et de contrôler justement les troupeaux progressivement. Et donc, mais vous avez ici une figure effectivement extrêmement massive et très belle de ce grand taureau. Et là, vous avez quelques autres grands cervidés ou animaux, ici des chevaux, ici des cerfs, donc la présence du monde animal. Et c'est intéressant parce que quelque part, on voit aussi une sorte d'évolution sur les siècles du rapport au monde animal. Pour aller vite, je n'ai pas le temps de faire tout un cours sur Lascaux, Chauvet, etc., qui sont sur une dizaine de milliers d'années, mais les animaux sont lointains. Et ce ne sont pas les animaux quotidiens, ce sont les animaux un peu qui font rêver, que l'on admire dans leur puissance, dans leur autonomie, dans leur liberté. Les animaux de Lascaux, de Chauvet, du paléolithique, sont les animaux que les humains envient parce qu'ils sont autonomes, ils ont besoin de rien, et ils sont libres, ils sont puissants, ils sont forts, et c'est le seul spectacle aussi que ces humains ont, puisqu'ils sont souvent errants, etc., et voir un troupeau d'animaux, ça reste un spectacle de voir un bel animal, enfin, un spectacle, chose de merveilleux, et vous avez cette idée aussi qu'ils sont toujours représentés dans le mouvement, Animal, d'ailleurs, c'est-à-dire ce qui se meut. Donc, si vous voulez, c'est assez logique. Et la beauté des corps animaux, alors, l'interprétation des figures, on va dire, paléolithiques est assez compliquée. Toujours est-il qu'ils sont à distance, ils sont représentés sous terre et quasiment jamais, très très peu, vous voyez des scènes de chasse. On a un chasseur à Lascaux, de temps en temps, mais on voit très très peu. Ils sont lointains, mais d'autant plus lointains qu'ils sont fascinants. Là, vous avez des animaux qui sont rapprochés et qui sont plus cachés, souterrains, dans une sorte de lieu magique. Ils font partie de l'espace quotidien. Dans la maison, dehors, dans la rue, enfin dans la rue, il n'y a pas de rue, mais sur des parois extérieures. Donc vous avez ici une proximité avec le monde animal qui s'exprime de façon assez claire. Et vous avez même des représentations d'oiseaux, ce qui est presque, qui est extrêmement rare dans l'art, on va dire, paléolithique. Vous avez une grande différence. Vous avez même des représentations de vautours sur une des scènes, alors ça a été identifié comme vautours, qui sont stylisées. Vraisemblablement des vautours qui sont en train de dévorer des corps, de nettoyer des corps. Alors, est-ce que ce sont des corps d'ennemis ou au contraire les corps, une façon de nettoyer le corps, de le donner aux vautours, puis ensuite de l'enterrer, ça on ne sait pas évidemment. Mais vous avez des représentations de vautours et qui eux sont stylisés. Là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Là encore, la stylisation, que ce soit des corps humains ou des corps animaux, bizarrement, on pourrait penser, et les animaux sont représentés de façon plus stylisée dans le mésolithique et le bovidien que dans les peintures plus archaïques, plus anciennes du paléolithique, de Lascaux, Chauvet, etc. Où là, on est presque une fascination naturaliste, y compris sur les. Et parce que, il s'agit de rendre hommage à la beauté naturelle de ces animaux. Là, dans la représentation stylisée, il s'agit de montrer en stylisant, c'est une façon aussi de s'approprier, de montrer quelque chose de soi en stylisant une figure. C'est une façon de dire, bah, peut-être qu'elle est belle, mais moi, je vais montrer notre interprétation, notre vision. On s'approprie la représentation et donc on ose styliser et aller vers quelque chose de plus en plus spirituel. D'ailleurs, pour aller un peu plus vite en besogne, plus au néolithique, par exemple, les Gavrinis en Bretagne, ou là on est, ou même à Fontainebleau, les gravures, il y en a des milliers du mésolithique, sont purement abstraites. C'est-à-dire que c'est une expression purement mentale. On n'est plus dans la représentation de la nature, on est dans l'expression d'idées ou de pensées. Donc, si vous voulez, vous voyez que dans l'art préhistorique, il y a une multitude d'approches et le mésolithique est très intéressant parce qu'on est dans la zone un peu intermédiaire. Continue et voilà la reconstitution, ben justement, associée à une sépulture, donc, et avec les vautours, donc, avec des personnages sans tête. Alors, là aussi, est-ce que ce sont des ennemis ou est-ce que c'est la tête était détachée pour ne pas être abîmée et ensuite enterrée séparément? Là, on ne sait pas. Alors, je vous montre aussi d'autres sites, parce que c'est, en fait, Çatalhöyük, je le prends comme exemple, je ferai souvent ça, parce que si vous voulez, c'est pas du tout isolé. Ça serait isolé, on dirait. C'est une curiosité. Mais c'est pas du tout une curiosité. C'est un repère et on voit des échos, y compris longtemps après, même dans la culture hittite, qui est contemporaine de l'Égypte, où on va voir sur le même site de Al-Hasharah Yuk, de 4000 à 1000, etc., eh bien, vous avez toujours les sépultures, les bucrates, à peu près le même type de structure de la ville. Et par la suite, un peu plus récemment, donc néolithique, hein, la culture hittite, eh bien, vous avez des allées de sphinx, etc. Donc on voit que dans la culture et les pratiques mésolithiques en Turquie, c'est en train de se construire aussi une culture de cité, une culture qui s'inscrit et qui intègre, avec les sphinx y compris, l'animalité. Et on verra aussi la question féminine, puisque c'est quand même le sujet. Alors, voilà d'autres sites de fondation de cités. Alors, en Turquie, hein, au Kayonu, alors là encore sur plusieurs niveaux. Là encore, ça c'est en Syrie. Là, à Çeliköy de Paris, on voit toujours étagé. Et j'ai quelqu'un, famille proche, etc., qui va très souvent en Turquie. Il y a des sites prodigieux qui ont ensuite duré sur des milliers d'années. Certains cités enterrées s'étalent, je crois, sur 8 niveaux au moins. 8 niveaux, et dans lesquels 20 000 personnes pouvaient vivre. Une personne peut vivre. Donc, c'est devenu, c'est déjà à l'œuvre, on peut dire, mésolithique, mais c'est quelque chose qui a perduré. Ce n'est pas des troglodytes, forcément, hein. Ce n'est pas enterré. Et avec des échelles, des évacuations d'air, des logements pour animaux, un éclairage qui est possible avec des évacuations de fumée, enfin, impressionnant. Alors, ça a servi aussi pour se cacher quand il y a eu des conflits, etc. Donc, c'est pour ça que ça a été aussi entretenu. Mais c'est quelque chose qui est récurrent et qui se trouve dans une multitude de sites en Turquie. On pense même parfois que le mythe de la tour de Babel serait pas éloigné de cette idée de structure et d'étage, etc., même si c'est souterrain. Mais bon, les ziggourats, les pyramides, il y a beaucoup d'explications possibles. Mais vous avez ici une échelle avec les personnages, hein, les visiteurs, on voit bien un peu de quoi il s'agit. Alors, je vais remonter encore plus loin dans le temps, parce que Tchataloudioù, on reviendra sur la question des figures féminines, puisque c'est quand même le sujet. Alors, pour faire vite quand même, très clairement, ces sociétés donc, ne possèdent pas le vivant, ne hiérarchisent pas l'humanité. C'est une société dans laquelle vous n'avez pas de possession d'animaux, ni d'esclaves. Les enfants ne sont pas non plus une main-d'œuvre nécessaire, donc on ne possède pas forcément non plus ses enfants, etc. Et vraisemblablement, les hommes ne possèdent pas les femmes, et inversement. Donc vous avez vraisemblablement une société dans laquelle le rapport au vivant, le rapport à la nature, empêche une hiérarchie. Et ensuite, vous avez quelque chose qui est clair dans la figure assise de Çatalhöyük, c'est qu'elle associe quand même à deux types d'animaux. Les animaux, on va dire, féroces, qu'on ne peut pas utiliser, mais qui sont un symbole de force, qui sont ceux qui restent de la fascination pour l'autonomie des animaux. Et vous avez les animaux féroces, sauvages, qu'on va continuer à admirer, mais qui sont presque, qui vont devenir presque mythiques. Et puis vous avez les animaux qu'on va pouvoir mettre de son côté et qu'on va s'approprier, apprivoiser et même modifier, comme les chiens, etc., avec l'élevage, etc. Et donc vous avez cette figure féminine, elle est les deux à la fois, parce qu'elle est trônante. Alors on peut s'y verrez plus tard que c'est souvent associé à la fondation de cité, parce qu'elle est assise, on n'est plus du tout dans la mobilité. Le fait de s'asseoir sur un trône ou d'être allongé ou d'être assise, c'est quelque chose qui s'inscrit sur le sol. Hein, on a souvent dit que les peuples précédents étaient nomades, même s'ils avaient des points d'ancrage, ils étaient quand même mobiles. Donc tout ce qui s'inscrit sur le sol est quelque chose qui signifie une façon de bien-être sur Terre, au sens strict, quelque part. Donc, on va associer plus tard, on le verra, ces figures de femmes trônant à des fondatrices de cités, domptant les animaux sauvages, une sorte de nature dangereuse, et en même temps accompagnant, apprivoisant une animalité qui est bienfaitrice, puisqu'effectivement, c'est une source de richesse prodigieuse, les bovins, les ruminants, que ce soit le lait, la peau, etc., la viande, c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Et dans lequel vous avez aussi une interaction qui est très étroite. Donc le culte taurin ici n'est pas du tout la violence du taureau qui est montrée. Alors je dis ça parce que vous verrez que ça sera différent plus tard. Et donc voilà, pour résumer un petit peu la figure de Çatalhöyük sur laquelle je reviendrai. Alors là encore, il y a quelque chose qui est détruit un petit peu nos stéréotypes sur les nomades, chasseurs-cueilleurs, etc. C'est le site encore plus ancien, presque 2000 ans, un peu plus de 2000 ans avant Çatalhöyük, c'est le site Göbekli Tepe. Göbekli Tepe trouve, alors c'est horrible à dire, c'est en plein quasiment Urfa, etc., ou Gori, etc., se trouve à peu près par ici. C'est vraiment l'ancien Syrie. Actuellement, c'est. D'ailleurs, la ville de Urfa en Turquie, une ville de 2 500 000 habitants, il y a 450 000 réfugiés syriens, et alors là, il y a un musée extraordinaire, mais on est dans des zones de conflit extrêmement dures, et c'est hallucinant de se dire que c'est peut-être un des plus beaux sites de l'histoire de l'humanité qui est là, c'est le site de Göbekli Tepe. J'aime bien les séries turques, il y en a une d'ailleurs sur Netflix, c'est consacré quasiment à ce site-là. C'est tout récent. Parce qu'y compris du point de vue de la Turquie contemporaine, c'est un passé qui ressurgit parce que c'est récent. C'est récent, la découverte de ces zones-là, y compris que certains acceptent de voir toute une culture passionnante avant l'islam, avant même l'Empire romain, et dans laquelle, justement, dans cette série, j'en parle, elle s'appelle Atiye, Atiye. Alors, pas toujours très bien, mais enfin, dans lesquelles la place des femmes est absolument centrale. Et là, vous avez donc, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant de revoir que, y compris un enjeu culturel dans les ressources archéologiques, y compris dans ces zones-là, c'est de trouver eh bien, une autre filiation, une autre histoire, y compris de l'humanité, dans laquelle l'oppression, le patriarcat n'a pas du tout la même valeur. Alors, le site de Göbekli Tepe est absolument prodigieux parce que c'est un site très grand qui lui aussi s'étale sur plusieurs niveaux. Alors là, par exemple, c'est une vue aérienne et là, là, vous avez des gens qui sont en train de. Et la tête dissimulée dessus. Donc, ce cercle de monolithes en T, alors voilà des reconstitutions, à un moment, puisque ça a été, y compris comme à Göbekli Tepe, recouvert et reconstruit. Des monolithes, donc des morceaux de pierre comme Stonehenge, si vous voulez, mais bien avant Stonehenge, presque 10 000 ans avant, enfin, 6 000 ans avant Stonehenge. Et vous avez ici une reconstitution à peu près du type de population en train d'ériger cela. On ne sait pas si c'est un temple. Il n'y a pas d'enterrement, enfin, il n'y a pas d'urne ni de sépulture. Vous n'avez pas d'habitation. Il n'y a pas de palais. Donc, c'est quelque chose qui semble être totalement gratuit. Et c'est d'autant plus stupéfiant que c'est une construction très élaborée qui demande des centaines, voire des milliers de personnes sur des centaines, voire des milliers d'années, pour des peuples que l'on dit nomades et chasseurs-cueilleurs. Alors là, c'est clairement bien avant l'agriculture, bien avant la sédentarisation. Donc vous avez avec Göbekli Tepe quelque chose qui est assez stupéfiant, c'est l'idée que vous avez quand même des populations entières qui s'accordent sur un territoire, sur un lieu, sur une culture, voire sur une religion ou des mythes, ça, on ne peut pas tellement dire, mais qui s'accordent pour venir chaque année, pendant des siècles, construire ensemble des zones qui ne sont pas du tout des zones de pouvoir, mais des zones, on va dire, symboliques. Donc c'est considéré comme un des lieux stupéfiant de l'humanité, là, et à peu près au moins pendant 2000 ans. Alors, les interprétations sont assez complexes. Certains pensent que c'est justement pour se répartir le territoire. Alors, plus en chasseurs-cueilleurs, encore que ça peut être ça, chasseurs-cueilleurs, mais aussi peut-être entre pasteurs. C'est en gros, ben, telle zone, ça sera pour nous, telle zone, ça sera pour nous. Et ce qui corrobore sur cette interprétation qui aurait plusieurs tribus ou peuples, c'est que sur ces sortes de figures en T, eh bien, vous avez des sculptures et des bas-reliefs qui sont de styles différents. On a presque l'impression d'avoir des animaux totémiques. Ici, vous avez des sortes de dodos, vous avez des singes, vous avez des mammifères, vous avez des oiseaux, vous avez des personnages, des léopards. Donc, comme si vous aviez. On n'est pas du tout là dans la représentation ni de l'élevage, ni même de la fascination pour les animaux étranges, la beauté des animaux sauvages, libres, qu'on a dans l'archéologie paléolithique. Vous avez ici quelque chose qui est autre. Et là encore, les textes sont rares, parce que d'abord, traduit du turc, il y en a très peu. Puis bon, c'est complexe. Enfin, pour nous, hein, le référent, les vocabulaires sont totalement différents. Donc, si vous voulez, on est encore au balbutiement des connaissances. D'ailleurs, ça fait très peu de temps que ce site est couvert. Maintenant, il y a une très belle couverture, un vélum magnifique qui est au-dessus, mais ça fait juste 3 ans, si vous voulez. Pendant longtemps, c'était là. Milieu, etc. Donc, si vous voulez, vous avez ici quelque chose qui est stupéfiant et qui aussi déconstruit. Alors voilà, on a presque ici un singe qui nous fait penser aux sculptures hindoues. Hein. Là, vous avez un léopard, ici des oiseaux, vous avez ici des figures un peu étranges, vous avez des motifs, des motifs ici réguliers et géométriques. Là, vous avez une sorte de bovin. Alors, et là, vous avez un sanglier. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout là dans une représentation, on va dire, utilitaire ou même magique, mais plutôt comme quelque chose de totem ou comme un blason, peut-être, d'une tribu, peut-être la tribu des singes, la tribu de ceci, la tribu de cela, et qui se réunissent vraisemblablement de façon égalitaire aussi, puisque la forme circulaire, après plus tard, nous, la table ronde, je fais la table ronde, mais vous avez quelque chose ici qui semble aussi totalement unique. Donc, on a une région qui, pendant des millénaires, cultive un rapport à la nature, y compris une certaine harmonie, un certain équilibre des forces, dans lesquelles il semble avoir une appropriation du vivant qui est aussi très intellectualisée, qui passe par des médiations évidentes, que ce soit sacrées, même stylistiques. Et évidemment, Göbekli Tepe et Çatalhöyük Yük sont à, quoi, à quelques centaines de kilomètres. Voilà, et le papier. Voilà. Donc, ça éclaire aussi non seulement toute la région, mais y compris le site de Çatalhöyük, que l'on voit évidemment avec sans doute des traditions. Alors, vraisemblablement, progressivement, une sédentarisation au niveau de l'habitat, vraisemblablement aussi au niveau des animaux, mais quelque chose d'un peu particulier et qui est absolument unique. Alors, voilà encore d'autres figures. Alors, là, c'est... Bon, là, vous avez justement Göbekli Tepe, Nevaligori, Çatalhöyük à peu près par là, et ça circulait. Hein, on sait très bien que, d'ailleurs, par exemple, les monolithes en T de Göbekli Tepe ne viennent pas d'à côté, il faut les transporter. Donc, on a aussi des sociétés qui sont importantes. Parfois, on dit chasseurs-cueilleurs, c'est une petite tribu, ils sont 30 ou ils sont 20, il y a les enfants, les femmes, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens actifs. Pour faire ça, il faut des centaines. Vous faites des centaines, ne serait-ce que pour transporter, pour tailler. Ça veut dire aussi, on sait très bien en général, plus vous avez des monuments importants, plus ça veut dire que c'est du temps consacré. C'est de l'énergie, c'est de la nourriture, de gens qui passent leur temps à faire ça, au lieu de chasser, de cueillir, de coudre, de faire ceci, cela. Donc, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont sans doute aussi assez prospères pour pouvoir dégager du temps à la construction de tels lieux. Et en tout cas, ça montre aussi la puissance spirituelle ou sociale, le fait d'appartenir à un ensemble tout en étant aussi spécifique. Hein, souvent dit la démocratie née avec les Grecs, mais là, vous êtes, c'est pas, c'était la régularité, le rapport, etc., mais il y a quelque chose ici qui est quand même assez remarquable. Alors voilà. Ceci dit, on va retrouver d'autres choses. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que c'est des zones qui ont été pas assez fouillées. On ne sait pas, il y a peut-être d'autres zones dans d'autres régions aussi qui nous apprendraient beaucoup de choses. Hein, par exemple, on voit dans les Baléares, on va retrouver des choses assez proches. Donc, vraisemblablement, c'est quelque chose qui est étrange. Alors, maintenant, je change, mais je ne change pas de période pour vous montrer aussi comment cette zone du Mésolithique a été méconnue. Moi, comme vous tous, Lascaux, c'est un chef-d'œuvre, c'est vrai. Mais je tombe sur ces peintures du Drakensberg en Afrique du Sud, qui sont d'une beauté extraordinaire, qui sont effectivement des représentations, alors ce qu'on appelle, j'ai longtemps cru que c'était des bovins, mais en fait, ce sont des élans, enfin des antilopes, un type d'antilope. Ce n'est pas les élans du Nord, ce sont des antilopes, etc., qui sont représentés sur des, non pas des grottes, mais des parois extérieures. Alors ça aussi, c'est différent. Presque tout l'art du Mésolithique, on le verra, est représenté sur des parois extérieures. Alors que les peintures paléolithiques, Lascaux, Chauvet, etc., sont sous terre. Donc là, vous avez aussi un rapport différent à l'animalité. L'animal représenté est présent. Et puis, ce sont les animaux qui sont des animaux proches au sens strict, puisque sont représentés avec les animaux une multitude d'humains. Vous avez les humains font partie du troupeau. Hein, accompagnent ou vivent avec les troupeaux, que ce soit là ou que ce soit là. Hein, ils sont en train de courir, alors peut-être est-ce que c'est une chasse, alors s'ils chassaient, ils les auraient terrorisés, donc vous avez l'accompagnement visiblement. Certains, des humains habillés avec des tuniques, etc., courent ici, donc c'est assez étonnant. Donc c'est la culture Boshiman d'Afrique du Sud, et dans lesquels vous avez une maîtrise technique prodigieuse, ne serait-ce que les modeler, les dégrader, rapport anatomique. La différence, j'ai montré ça à des chercheurs du CNRS à Orsay, à Saclay, ils étaient sidérés de voir y compris la justesse, y compris des robes, des animaux, des grands ruminants, en disant ils sont compris très attentifs à la typologie, à la répartition, y compris de ces animaux. Donc l'anatomie, le modeler, le dégrader, les muscles et... tout ça, il faut savoir aussi quand même que les peintres ou peintresses, d'ailleurs on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes qui peignaient, n'ont pas demandé à l'animal de poser. Non. Donc c'est aussi, ça veut dire qu'il y a une connaissance très proche de l'animal, y compris chez Lascaux. Ils font tout, l'animal n'est pas sous terre, donc il faut l'avoir en tête de façon extraordinaire. Essayez, vous dessinez un cheval ou une vache de tête, waouh, bon, même si vous voulez, moi j'ai c'est difficile. C'est difficile de tête. Là, ça veut dire que vous avez une proximité, vraiment une attention prodigieuse sur l'animal qui est assez claire. Et on va la voir aussi. Et ce culte ou cette vénération de la représenter ces animaux, on la retrouve dans toute cette période-là. Par exemple, la grotte de Laz Djel, je ne sais pas comment on entend, Gel, en Somalie, c'est la période du Bovidien. Le style est différent, mais c'est encore, vous avez encore des humains, hein, alors 3000 ans avant Jésus-Christ, et alors là, vous avez des grands bovins, et vous avez des humains, alors c'est marrant, puisqu'ils sont en chemise et pantalon, donc ça aussi, au niveau des vêtements, c'est assez, ils sont tous comme ça, alors on ne sait pas si ce sont des femmes qui sont là, et les bras levés, il y avait une sorte de presque comme des orangs, hein, de lever les bras devant des alors cette fois-ci ce sont des vaches puisqu'on voit les pies, ce ne sont pas des taureaux ni des bœufs, c'est quelque chose aussi dont on voit que ces animaux, les bovins, sont effectivement une source, c'est pour ça qu'on parle même du bovidien, pour les grands mammifères, les grands ruminants, sont pendant des millénaires vraiment la ressource, la référence, non seulement peut-être au niveau du bien-être des ressources, mais y compris d'un point de vue mental et culturel, comme étant une sorte de rapport apaisé entre les humains et certains animaux, où tout d'un coup, vous avez quelque chose qui est serein, etc. Là, vous avez ici une peinture du Tassili, en Algérie, parce que Tassili, je crois que c'est très grand, qui est absolument prodigieuse, et dans laquelle alors que le style est différent, parce que dans le Bovidien, on n'est pas dans une peinture, on va dire, naturaliste. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on interprète aussi un rapport à la nature, on le voit, qu'on maîtrise de plus en plus, mais y compris donc stylistiquement. Et là, vous voyez effectivement des chevaux, des dromadaires qui sont montés, on trouve des chiens, et on trouve au milieu, effectivement, des grands bovins qui sont représentés là. Et alors là, c'est difficile à dater, hein, parce que quand c'est en extérieur, comme la scotte, souvent les dates par le sol, parce qu'on va trouver. Là, comme ce sont sur des parois rocheuses, des surplombs rocheux, c'est difficile à dater. Mais... Ah oui, alors, les grottes, mais c'est en fait c'est des semi-grottes, elles sont très rarement enfoncées. Par contre, ce qui est aussi très clair, en Afrique du Sud, dans le Drakensberg, c'est encore les montagnes, c'est vert. Göbekli Tepe, Tchatalouyou, il y a encore un peu d'herbe. Mais dans le Tassili, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire aussi, de façon très claire, qu'il y a eu des civilisations et d'une activité humaine absolument prodigieuse. Voilà encore des figures Tassili-Nechar, Tardrat en Algérie. Vous avez encore une fascination pour les ovins, pour les bovins. Et avec, presque à chaque fois, vous avez aussi des humains parmi ces animaux. Et donc, ça veut dire qu'il y avait aussi de la verdure. Il y avait des prés, il y avait des grands pâturages. Et là, on est effectivement... Et par contre, vous n'avez aucune mention, ni d'enclos, ni de possession, etc. Donc, ni d'agriculture établie, c'est-à-dire de cultiver des céréales. Et on sait très bien, pour nourrir on dit un hectare par vache, bon, vous avez vu la quantité, c'est combien d'hectares. C'est-à-dire que vraisemblablement, ce sont des pasteurs. Mais là encore, moi, je suis terrifié parce que j'ai beau chercher, c'est très difficile de trouver des recherches très claires sur le pastoralisme et même sur cette période-là. Alors, le Tassili Nedjar, etc., a été découvert juste dans les années 50. En plus, une bonne partie. Alors, ce sont des milliers de sites. C'est pas là que je vous en montre plusieurs. Et ça s'étale sur presque toute cette zone du Sahara jusqu'en Libye, quasiment. Et ça va même, évidemment, on comprendra, ça va aller jusqu'en Égypte, puisque Libye, Égypte, etc. Et voilà encore les pasteurs du Tassili et alors les hommages aux bovins, on les voit ici. Et vous avez, on le voit ici justement, aussi, des hommes et des femmes et des enfants et des chiens, etc. Cette période, effectivement, appelée Bovidien, est très claire. Et en voilà encore quelques exemples. J'ai fait un tri, parce qu'il y en a des centaines, où je vous montrais les grands bovins, mais on voit que ce n'est pas du tout anecdotique, cette histoire du rapport aux bovins. Et ce rapport à la nature, c'est partagé sur des zones entières de la Terre. Et encore, je ne parle pas du mésolithique amérindien, qui est aussi bien particulier. Vous avez toutes les pétroglyphes des Amérindiens, qui sont aussi parfois très anciens, et qui sont assez remarquables. Et vous avez même des pétroglyphes fascinants sur un rapport des chasseurs de baleines jusqu'en Corée ou en Sibérie. Où là aussi, si vous voulez, ben, la baleine, c'est un peu l'équivalent des grands bovins, C'est un animal mais, dont la capture est généreuse, mais aussi il faut être à plusieurs, c'est toute une société. Évidemment, on ne peut pas enfermer la baleine. Là, c'est de la chasse, si vous voulez, mais vous avez quand même, ce n'est pas des petits groupes, c'est des sociétés entières qui vénèrent comme ça ces grands animaux, on va dire, généreux. Et là, vous avez donc encore ces grandes peintures. Et voilà encore d'autres. Hein. Ces peintures ont été souvent très abîmées, certaines ont été repeintes, parce que là c'est pareil, c'était des explorateurs plus ou moins, pas forcément des archéologues, des amis qui venaient, certains ont fait des relevés, pour faire des relevés ils ont mis des calques, ils ont même mouillé les peintures pour que tout d'un coup les contrastes apparaissent mieux, et donc c'est des choses qui ont été fortement dégradées, qui sont actuellement très difficiles d'accès. Il faut des guides pour y accéder, parce que souvent c'est des surplombs rocheux au milieu du désert. Donc vous n'avez pas de carte, vous avez des gens qui connaissent. Donc j'ai rencontré des gens qui y étaient allés, c'est faire du trek désert, c'est compliqué. Et ensuite, c'est en plein air, donc ça peut être aussi abîmé. Mais alors, ce qui fait que la datation aussi est parfois un peu étrange, un peu étonnante. Mais on sait, après, ce qui va permettre de dater, c'est aussi l'histoire bien du territoire, c'est la sécheresse. Puisqu'effectivement, on sait très bien à partir de quand vous avez eu un réchauffement, ce qui fait que toute cette zone-là a perdu ses prairies, etc. Et on peut penser raisonnablement que toutes ces populations ont migré progressivement vers les zones plus fertiles, par exemple l'Égypte, où le Nil permettait justement d'échapper à la sécheresse. Et c'est allé peut-être un peu vite en besogne, mais vous verrez, je me permets de le faire. Je suis pas. On peut se permettre, effectivement. On verra que le culte bovin en Égypte est absolument essentiel et fondamental. Et on verra aussi en quoi l'Égypte est aussi spécifique du rapport masculin-féminin, de façon évidente. Là, vous avez une peinture aussi qui est assez remarquable, puisque j'ai marqué domestication, partage, accompagnement. Vous voyez ici un rassemblement. C'est cette idée de, par moment, comme font les pasteurs, les éleveurs de rennes, etc., il y a un moment où on rassemble les troupeaux. Et puis on regarde dans quel état ils sont, éventuellement on se partage, on va voir ceux qui sont malades, et puis après on les relâche, etc. Donc vous avez quelque chose qui apparaît ici, et vous avez ici ben, une attention remarquable, y compris les robes hein, de chaque bovin, et toute la population semble, on a presque l'impression que c'est une fête, il y a même des gens qui sont assis, tout ne travaille pas, une sorte de foire. Hein. Et là, vous avez, alors ça, ce sont des reliefs qui ont été repeints, visiblement. Alors, certains ont essayé de voir des mythes, des mythologies, et vous avez des figures féminines, vous avez des figures d'enfants, des figures. Alors, celle-ci a été un peu fantasmée aussi, parce que vous avez apparemment une ombre portée, vous avez de la danse, vous avez des costumes, vous avez des choses qui sont stupéfiantes, difficiles à identifier, difficiles à dater. Vous avez même une sorte de cynocéphale ici, donc là, des personnages, semble-t-il, tatoués, avec, on dirait, des mangues et des figures étranges. Donc, mais ce sont des calques qui ont été qui sont plus ou moins figurelles. C'est difficile de voir des figures. Et là, vous avez des figures féminines en train de danser avec des coiffures. Donc, en fait, l'humanité, si vous voulez, du mésolithique, en gros, elle est extrêmement riche. Et moi, je ne sais pas, mais très souvent, j'avais l'astro, et hop, on passe au néolithique. On passe à l'Égypte et puis les mégalithes bretons ou Stonehenge, etc. Puis entre rien. Alors qu'en fait, c'est visiblement non seulement dans cette zone du globe, mais je vous l'ai dit, si on cherche, si on la période du mésolithique, notamment autour des pétroglyphes, est remarquable. Et voilà encore, alors, hein, ce sont des scènes très très grandes. Hein, celle-ci, on voit 2 mètres sur 3 mètres 50. Un petit peu encore, on peut à peu près le même type de choses. Avec une population, on n'avait pas de dimension hiérarchique, pas de personnage plus important. Et là, ils sont proportionnés à peu près avec toujours ces bovins, qui semblent effectivement les animaux les plus sensibles. Et là encore, des dessins relevés avec toujours le même bovin. Alors, ce n'est pas évident à trouver des documents, hein. Même sur Internet, vous cherchez, des bouquins, il y en a peu, et y compris. Que leur datation, il y a eu d'école d'archéologie, y compris sur ces territoires-là. Il n'y a pas d'équipe entière de l'archéologie, par exemple, française ou internationale, ou allemande, anglaise, les grands champions d'archéologie. Et comme je vous le disais, une bonne partie de ces pays-là, d'abord, les nomades, même du désert pour eux, ce n'était pas leur culture, ce n'était pas leur histoire. Tout ce qui est islamique aussi ne s'est pas intéressé du tout, en plus, à la figuration. La tradition musulmane refuse la figuration. On passe dans une expression contraire, totalement divine, des arabesques et de l'écrit du texte, mais on va refuser la figuration, donc il y a ça. Et puis en plus, il y a aussi cette idée d'une société qui n'est pas hiérarchisée, dans laquelle on semble ne pas vénérer un dieu particulier, ou s'il y a des vénérations, il se trouve que ce sont des figures féminines. Là aussi, ce sont des choses qui ne sont pas en odeur, on va dire, de sainteté dans certaines cultures extrêmement patriarcales. Et alors celle-ci aussi est remarquable, Mandagéli au Tchad, etc. Hélas, ce serait très intéressant si cette culture et ces connaissances étaient plus partagées, y compris par la jeunesse de ces pays, de voir qu'ils ont une histoire plus complexe que ce qu'ils apprennent sans doute à l'école. Et là, vous voyez encore les dromadaires, les chiens. Et ici, on voit des chiens. Alors, vous avez aussi dans les pétroglyphes, permettent de comprendre au mésolithique à quel moment, effectivement, on est passé justement de la pure chasse, souvent des chasses de tactique. Il n'y a pas besoin de chiens, il fallait pousser les animaux, les piéger. Ce qui, d'ailleurs, cette idée de chasse tactique, fait réfléchir certaines personnes sur la place des femmes, y compris dans la chasse. Pour tuer l'animal, on ne le tue pas forcément à coup de hache en pierre, etc. C'est souvent en le faisant tomber, en le piégeant, etc. Et donc, là, pour la tactique, pour le piéger, pour le conduire à un endroit, hommes ou femmes peuvent très bien le faire, y compris l'arc. On le voit souvent, l'arc peut très bien être manié justement par des femmes. On verra dans deux cours suivant l'importance des Amazones et le mythe des Amazones. C'est quelque chose qui, en plus, peut être totalement stéréotypé sur ces questions-là. Alors, je continue. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite parce que je veux quand même vous montrer que c'est très, très riche. Et toute cette région aussi d'Afrique du Nord est prodigieuse. Vous avez aussi des gravures. Alors là, les gravures, on voit très bien qu'on est aussi en plein air. En plus, la gravure, on voit la volonté délibérée d'inscrire sur la pierre, parce que ça ne se fait pas à dessiner. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui parlait d'un des dessins des chevaux dessinés dans la grotte du Madasil, je crois. Non, pas du Madasil. Pas Chauvet, Pêche-Mer, je crois. Et quelqu'un dit, mais ce cheval, il est fait en même pas une heure. Ou fusain, enfin une sorte de charbon de bois, c'est pas long. Si vous voulez, ça peut être parfois des occupations relativement courtes. Alors, sur Lascaux, Chauvet, c'est long, etc. Et même, par exemple, à la grotte de Pêche-Merle, on sait qu'il y a presque 15 000 ans d'écart entre une peinture et le dessin du cheval. Là aussi, il faut faire attention aux stéréotypes, ces grottes-là étaient visitées pendant des milliers d'années. Donc, c'était des nomades, mais avec des points d'ancrage. Ils se retrouvaient régulièrement au même endroit, vraisemblablement. Donc, si vous voulez, le nomadisme n'était pas une errance total. Il y avait vraiment, c'était nomade pour des opportunités, on va dire, de survie, etc., ou de vie, mais vous aviez certainement un marquage du territoire et une connaissance du territoire pour que l'on puisse retrouver ces grottes et retrouver des traces, etc. Donc, là encore, il faut modifier très certainement notre vision de ce nomadisme. Et là, c'est pareil, puisque le fait de marquer ces troupeaux de est évident. Et puis, vous avez ici cette scène. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. C'est la première fois que l'on voit des harnais, des seaux, une scène de traite. Scène de traite qui est ici gravée. Alors là, vous avez quelque chose qui est très émouvant puisqu'on voit que là, on s'approche vraiment et l'intimité, la connaissance de l'animal, y compris avec tout un outillage pour l'accrocher. Alors, vous voyez à peu près la personne ici assise et la vache ici. On devine, et c'est émouvant de voir s'approcher comme ça un élevage, et très émouvant. Alors, vous avez aussi, c'est ça aussi, vous avez les bovins, mais vous avez aussi les dromadaires, et là, on est en Arabie Saoudite, à peu près à la même période, et là encore, alors, on peut dire que les princes saoudiens ne sont pas les premiers à vouloir aller chercher ce genre de traces. Donc, si vous voulez, c'est assez complexe, y compris les pauvres chercheurs saoudiens ou chercheuses qui veulent faire, ne sont pas forcément aidés. Je ne sais pas s'il y a un budget, mais toujours est-il que, y compris si c'est des étrangers, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, c'est là aussi. Et puis, c'est perdu le désert. Enfin, l'Arabie saoudite est immense. Donc, si vous voulez, trouver les traces, c'est complexe. Et là aussi, ce sont sur des grandes parois rocheuses, où là, on voit cette fois-ci, ce sont les dromadaires qui sont effectivement fascinants, peut-être avant d'être domestiqués. Et vous avez là, c'est peut-être la plus ancienne, alors on appelle des pétroglyphes, c'est des gravures sur la pierre, et des chiens. Alors ça, vous avez une multitude de chiens hein, qui sont un petit peu des loulous. Et vraisemblablement, les petits fourmis sont une des premières bâtardisations du loup. Ils sont encore quelque chose qui est un peu du loup, mais plus petit. Et on sait très bien que les chiens sont des animaux, c'est un terme ça, néoténisés, c'est rendu fragile, comme les humains. Les humains sont totalement fragiles quand ils naissent, sont totalement donc, incompétents. Il faut des années pour qu'un humain soit à peu près autonome. Eh bien, les humains ont compris que le chien pouvait être aussi fragilisé, donc devenir dépendant. Et en devenant dépendant, on peut le dresser, etc. etc. Et donc, vous avez avec le chien quelque chose qui est assez fantastique aussi du point de vue de la modification et le rapport à l'animalité, parce que là, vous commencez à avoir effectivement une hiérarchie, parce que là, on va commencer à avoir un animal qui est soumis, y compris avec la domestication des chevaux et des dromadaires. Là, vous avez quand même l'idée qu'on peut dominer, dompter et s'approprier effectivement un être vivant. Et alors, ça va être aussi pareil pour la traite, etc. Mais va commencer à germer l'idée aussi qu'on peut peut-être justement, et là, une hiérarchisation du vivant. Et voilà la scène de tout à l'heure, une autre, mais représentée de meilleure manière. Et alors, vous avez des pétroglyphes en arabe, avec ici, même des chars, donc là, on est quand même dans une période plus récente, mais très intéressante, et avec y compris des écritures, là, donc on se rapproche, si vous voulez, de quelque chose de plus récent. Alors, vous avez aussi, et là, c'est pour ça que j'en arrive aussi, je peux vous sembler m'écarter un peu du sujet, mais en Arabie Saoudite, vous avez des figures qui sont assez incroyables dans ces pétroglyphes issus du mégalithique, c'est qu'on voit la déesse Alia. Alors, je vous défie d'aller trouver, tapant sur Internet, déesse Alia Arabie Saoudite, vous allez mettre un certain temps avant de trouver quelque chose. Si vous trouvez des jeux vidéo, bizarrement, beaucoup de jeux vidéo s'adressent aussi à des jeunes ou pas mal à des filles, vont réhabiliter beaucoup de figures féminines puissantes. Et par contre, au niveau des représentations, vous allez avoir des salières, vous allez voir une sorte de guerrière, machin, et pour trouver des vraies traces de. Alors, la déesse Alia est représentée ici, cheveux libres, main levée, le pubis très clairement identifié, et entourée de figures, masculines ou pas, chasseurs, mais toute puissante, ou célébrée peut-être, ou chassée par des cavaliers, etc. Et on voit toujours le sexe, le pubis marqué. Les cheveux libres, les bras levés. Et la déesse Alia, alors, on n'a trouvé que deux, mais elle est souvent représentée en trois. C'est donc trois déesses qui sont représentées très souvent, parfois avec des sortes d'ailes. Et les voilà gravées. Et là, on va retrouver, elle n'est pas non plus, parfois, elle a la taille très fine, donc très claire. Parfois, des seins plus ou moins marqués, puisque vous remarquez, on n'est pas du tout dans les Vénus, entre guillemets, préhistoriques. Et voilà les déesses. Que c'est un peu plus complexe. Certains sont, il y a Alia, Alat et trois, et les voilà représentés au moins plusieurs fois en Arabie Saoudite, toujours, et les toujours. Et ça, ce sont des, j'ai cru que c'était les mêmes, mais ce sont toujours des différentes. Déesse Alia et les suivantes, et ce qui va être assez, voilà, donc, il y en a beaucoup, hein. C'est pas un fait isolé. Et vraisemblablement, si on cherche, on trouvera d'autres. Donc vous avez dans cette période-là, là encore, des cultes féminins très clairs. Parce que là, vous avez une dimension hiérarchique, c'est stylisé. Donc, très vraisemblablement, on parle de déesse, parce qu'effectivement, là, vous avez une figure qui surgit, qui sort du lot, qui est beaucoup plus grande, et qui est entourée par des figures peut-être masculines, etc., qui sont plus petites, qui sont, etc., qui semblent, on ne sait pas si c'est pour l'honorer, qui brandissent une lance, etc., mais on est effectivement toujours dans cette période de la du mésolithique, visiblement, parce que là, on sait très bien que ces zones-là n'étaient pas des zones d'agriculture. En Arabie Saoudite, c'est pas le truc. C'est resté souvent des peuples plus ou moins nomades ou éleveurs. Donc, si vous voulez, on est très clairement et associé à des figures féminines toutes puissantes. Et voilà d'ailleurs la façon dont ces trois déesses ont continué à exister dans une culture pré-islamique, et notamment ici, là où je veux en venir. Puisque vous avez cette fois-ci une trinité de ces trois déesses, alors Uzza, Menat et Lat, alors parfois ça a été Aliat, etc. Bon, Alat ou Alia, hein, c'est un peu complexe, Ouza, qui ont des fonctions différentes. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus récent. Elles ont été considérées comme déesses pré-islamiques et à un moment, je crois, dans le Coran, certaines d'entre elles sont mentionnées. Donc, si vous voulez, vous avez une continuité quand même assez claire et assez importante, mais dans laquelle vous avez des figures féminines très importantes. Et là, et islamique, et qu'est-ce qui se passe? Elle est debout sur un fauve. Elle est debout sur un lion. Et on a vu que c'était aussi le culte de ces déesses féminines en Arabie Saoudite était associé aussi à la domestication progressive et à ben, le bovidien, en gros, bovidien, canin, c'est-à-dire le moment où on est dans aussi un pastoralisme très abouti dans lequel ces grands mammifères sont effectivement honorés. Et en même temps, on va dompter les bêtes sauvages parce que c'est une menace, menace pour les troupeaux, menace pour soi, etc. Et puis en même temps, ce sont des animaux magnifiques. Certains des animaux aussi qui peuvent être totémiques. Donc vous voyez là encore quelque chose d'assez original et c'est la seule reproduction de ces trois déesses. Il y a peut-être une autre que j'ai pu trouver dans cette période du deuxième siècle. Il doit y en avoir d'autres. Mais où cacher, dans quel musée, dans quel souterrain, dans quelle crypte? Pas évident à savoir également. Donc quelque chose de ce point de vue-là de très intéressant est trouvé en Irak. Donc vous voyez que toute cette zone, Afrique du Nord, Proche-Orient, Anatolie, est passionnante de ce point de vue-là et, chose assez étonnante aussi, assez cohérente. Assez cohérente. Alors maintenant, si on retourne un petit peu plus en arrière sur ces figures féminines, parce qu'évidemment, on ne peut pas s'empêcher de comparer la figure de Tchatalujou, qui est effectivement avec des seins assez forts et puis des cuisses assez fortes, à ce qu'on a appelé des Vénus. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est réducteur. Puisque le terme même de Vénus ou Aphrodite, je dirai ça la prochaine fois, dans deux ou trois cours, c'est déjà une réduction totale de figures féminines. On va réduire une déesse à la dimension érotique ou sa beauté. Y compris même dans la tradition grecque, c'est déjà quelque chose de totalement réducteur, puisqu'elle est que beauté. Et ensuite, le paradoxe, c'est une Vénus ici qui sera associée à la fertilité. Donc déjà, c'est plus complexe parce que Vénus, en général, n'est pas associée à la fertilité. Donc déjà, vous avez quelque chose ici qui est un peu complexe. Et puis, même le thème de fertilité n'est pas évident parce que les figures féminines du paléolithique sont parfois assez fines. On sait y compris de manière que des peuples qui bougent souvent, qui bougent quand même malgré tout, ils n'habitent pas en ville, ils bougent pas mal, ils ont un régime très peu gras, très peu sucré, ils bougent beaucoup. Donc, je veux dire, les silhouettes, sauf peut-être des particularités génétiques, etc., mais les silhouettes un peu fortes, etc., ne sont pas du tout les silhouettes les plus communes. Donc, c'est vrai que vraisemblablement, ici, vous avez quelque chose qui n'est pas dans le naturalisme, mais qui est une manière d'honorer une certaine force, une certaine puissance, une certaine féminité, comme quelque chose d'exceptionnel, effectivement. Et d'ailleurs, elles sont hiératiques. Elles ne sont pas en action, elles ne bougent pas. De ce point de vue-là aussi, c'est quelque chose qui est clair. Alors, on ne sait pas, certaines ont pu être des amulettes, certains ont même pensé que certaines pouvaient être des poupées, mais enfin, par exemple, ici, vous avez la vulve ici qui est proéminente, donc c'est quelque chose qui est quand même clairement associé soit à la sexualité, soit à l'accouchement, ou aux deux à la fois, etc. Mais c'est très ancien, y compris cette de Hillendorf qui est en Allemagne, elle est presque jusqu'à la caricature, jusqu'au fantasme. Alors on peut imaginer effectivement qu'on est dans du fantasme et qu'effectivement la féminité ou le corps féminin a fait fantasmer. Alors hommes ou femmes, on ne sait pas qui sculptait cela. Vous avez aussi certaines théories, notamment de Claudine Cohen, je crois, qui a fait un très bon livre sur les femmes dans l'Antiquité, dans la préhistoire, qui dit que certaines visions sont certaines de femmes enceintes, et telles qu'une femme enceinte peut se voir elle-même avec les seins, le ventre, etc. Donc, c'est quelque chose, et c'est vrai on a pensé que c'était des hommes qui sculptaient ça, mais rien ne le dit. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent peut très bien avoir été peint par des femmes ou des hommes, ou même parfois peut-être des enfants y participaient. Alors, il vous n'avez aucun signe qui puisse genrer, y compris la production de ces œuvres. Donc on peut s'attacher uniquement à l'interprétation des contextes, des formes, de style, la façon dont on s'écarte plus ou moins de l'observation dont on va vers le symbolique, vers le géométrique. On peut, comme je vous l'ai montré, avoir des éléments, y compris historiques, géologiques, etc., pour comprendre le moment. Mais par exemple, il y a une chose qu'on ne peut absolument pas dire scientifiquement, c'est que c'est fait par uniquement des hommes. Surtout que la pratique artistique, hein, ça veut dire du temps, même si on considère qu'il y avait des pratiques genrées par rapport à l'activité. On dit les hommes allaient chasser, les femmes, elles aussi allaient chasser, on dit les plus petits chipis ou même le grand gibier. Mais souvent, le fait d'être assis, de travailler sur place, etc., on considère que c'était moins le rôle des hommes. Même de ce point de vue-là, les hommes, s'ils bougent tout le temps, c'est plutôt les femmes qui étaient, peut-être, qui avaient plus de temps, peut-être, de, assises devant le feu, surveillant la cuisson. Même si les activités étaient genrées, eh ben, le pratique de la sculpture, par exemple, de la taille, pouvait être tout à fait féminine. Comme on verra plus tard, le tissage était souvent très méprisé ou pas considéré comme artistique. Vous avez ça aussi qui est évident, c'est que de toutes ces cultures-là, ne restent que des traces solides, mais tout ce qui pouvait être tatouage, chant, musique, peinture, tissage, modelage, poterie, etc., qui pouvait être aussi des artefacts sophistiqués, a disparu. Donc, vous avez là aussi, on est obligé de relativiser complètement la connaissance que l'on a de ces cultures. On trouve un peu un mobilier quand même, des armes de chasse sur lesquelles vous avez les animaux, etc. Mais tu aurais dit qu'on ne trouve jamais de silhouette masculine de cet ordre-là. Donc, il y a quand même une approche genrée. Alors, attention, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y en a des milliers. Et répartis, effectivement, alors là, c'est uniquement le Proche-Orient. Là, on n'est plus dans les, entre guillemets, Vénus paléolithique, parce que c'est, entre guillemets, Vénus figurine paléolithique, vous en trouvez jusqu'en Sibérie, en Allemagne, en territoire, on va dire, européen, extrêmement varié, avec des constantes, plus ou moins, effectivement, avec les saints importants, hiératisme, pas de portrait. Par contre, ce que l'on voit, c'est une sorte d'évolution, justement, de ces types de silhouettes et de sculptures féminines, mais toujours des silhouettes féminines. Et vous avez celle du Mésolithique, on va retrouver certains loup ici, les trois en bas sont de type. Vous avez des figures, elles aussi, sont des figures anatoliennes ou jordaniennes, etc. Et on va les voir évoluer avec des constantes, par exemple, se tenant les seins, ou debout, ou parfois assises, et progressivement, effectivement, aussi assises et trônant, comme on la voit ici et là, avec une stylisation progressive. Stylisation progressive, on s'écarte quand même d'une anatomie parce que, malgré tout, même les paléolithiques étaient assez stupéfiantes. Et voilà justement quelques figures féminines de plus en plus stylisées. Alors là, on peut imaginer que les peuples se sédentarisant progressivement commencent à avoir aussi une sorte d'identité peut-être culturelle qui va se traduire par une identité de style, par des motifs, par des genres, par des costumes, par des habits, mais toujours est-il que malgré la diversification des styles, et donc des styles régionaux, eh bien, vous avez une constante, c'est ces figures de femmes assises, trônant, ou tenant les seins, ou y compris cette fois-ci avec un enfant, etc. Alors ça, on est aussi toujours dans, on va dire, la fin du Mésolithique, le début du Néolithique, c'est-à-dire 3000, etc., 4000, 3000, hein. La datation est assez complexe, mais par exemple, c'est une chose toute bête, au Louvre, il n'y a pas beaucoup de traces de ce genre de choses. Ce n'est pas évident. Hein. Sans parler qu'au Louvre, vous n'avez quasiment rien de celte ni de gaulois. Enfin, mon vieux gaulois, etc. Mais, ou à sens, oui. Mais si vous voulez, j'en reparlerai tout à l'heure, donc, ou la prochaine fois. Donc, vous voyez qu'on a aussi une façon de voir notre histoire qui est très orientée, puisque, y compris même pour récupérer ces données, il faut fouiller. Alors, vous avez des sites un petit peu caricaturaux parfois, ou même discutables, comme un truc qui s'appelle qui défend l'idée de matriarcat, qu'il y aurait eu des matriarcats, etc. Peut-être, mais apparemment, c'est très discutable. Et donc, vous avez un site qui s'appelle Matriciel, donc parfois sur certains côtés caricatural, mais au moins qui a le mérite de recenser une multitude d'œuvres et de situations, de civilisations dans lesquelles vous avez un rapport différent au genre, à la nature, ou à la figuration féminine, ou au rôle féminin. Et qui essaie. Et par contre, ce qui est assez convaincant malgré tout, c'est de voir que vous avez une continuité prodigieuse, vous avez des corrélations, par exemple les bovins, les animaux, ces figures, cette façon de représenter l'univers féminin, jusqu'à la stylisation magnifique des Cyclades, etc. Et cela va progresser effectivement, et là où c'est aussi remarquable, c'est de voir que c'est une continuité. C'est une continuité qui continue à perdurer, et c'est là où ça devient aussi vraiment notable, même dans les moments de sédentarisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'au néolithique, où il y a cette fois-ci une appropriation, une maîtrise et un contrôle de la terre, y compris de certaines populations, l'émergence de cités, eh bien, vous avez quand même la façon de perdurer de certains sites. Par exemple, dans la culture hittite, toujours en Anatolie. Mais qu'est-ce qu'on va trouver encore? Regardez cette déesse hittite, sous les genoux d'un enfant, mais là, vous avez des bêtes féroces. Vous avez une femme trônant qui nous rappelle celle de Çatalhöyük. Mais les hittites, c'est aussi en Anatolie. Donc, si vous voulez, vous avez là aussi une continuité. Et puis, vous avez cette culture remarquable qui a été trouvée, elle aussi, dans les années 50, à Tel Alaf, hein, donc toujours les cultures des Hittites, et vous êtes toujours en Anatolie, etc. C'est une figure de femme assise. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le fait d'être assis et de trôner, c'est quelque chose de spécifique. Et voilà la figure des femmes Hittites. Alors, c'est très grande, hein, trouvée aussi dans des cités, et c'est là où, si on raccorde tous ces éléments, ça fait du sens. Ça fait du sens, puisque c'est aussi associé à des cités. Donc, l'idée de femme fondatrice de cités également. Et avec un hiératisme évident. Alors, évidemment, vous avez vu que c'est contemporain à peu près de l'Égypte. Il y aura des liens qui sont très clairs, y compris au niveau stylistique. Mais ça circulait et l'Égypte n'est pas si loin. Hein. C'est la demi-heure de temps d'Égypte. Alors, voilà d'ailleurs, on est au néolithique, hein, quand même. Alors, c'est vrai, nous, on est tout contents. Moi, en plus, je suis armoricain, je suis breton. Donc, waouh, les mégalithes, les dolmens, les menhirs, on est fiers, etc. C'est beau, mais bon, pendant le même temps, ils faisaient ça aussi. Donc, on imagine que c'était des civilisations extrêmement complexes, abouties, et dans lesquelles, qu'est-ce que l'on va retrouver? On va retrouver encore, cette fois-ci, des figures. Une animalité qui devient complexe et symbolique. Là, vous avez une femme ou une figure qui semble dompter un char sur laquelle vous avez toujours des bucranes. Et vous avez une animalité qui, elle aussi, un peu monstrueuse. Là, cette fois-ci, ce ne sont plus des félins, ce sont des griffons, c'est-à-dire à tête humaine ou des sphinx, des griffes de félins, des ailes, etc. Donc, on voit bien que derrière cette espèce de manière de dompter des animaux, des fauves, c'était un peu toute l'étrangeté de l'animal qu'on ne peut pas domestiquer, qui devient un petit peu fantasmé. Les animaux fantastiques, hein, les griffons, les dragons, les fauves, etc. Donc, puisqu'on voit comment évolue aussi cette figure des fauves, comme on le voit là. Et puis, vous avez là encore cette idée du fauve, on va la retrouver, qui continue et qui perdure, et même y compris dans les grandes cités. On va voir à Babylone, par exemple, ou à Alep, les très très grandes, les cités prodigieuses, qui sont détruites, oubliées de façon terrible. Et bien, on va voir une figure féminine ici, pas que féminine d'ailleurs, ça c'est intéressant, une figure féminine, une figure masculine, et qui donne tantôt des bovins, tantôt des lions, etc. Là, vous avez la figure de Ptah, qui est une figure importante, peut-être, de l'Antiquité, ou même des déesses primitives, qui est absolument réelle, qui était honorée à Babylone, puisque vous avez la grande porte d'Ishtar. C'est Ishtar qui est une déesse qui est très complexe, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs avec son arc, elle est debout sur fauve, elle a un arc, et Ishtar est à la fois une déesse de la sexualité, y compris du désir féminin, même parfois vue comme un peu impérieux, et extrêmement forte, puissante, associée aux astres, à la lune, au soleil, et c'est d'ailleurs Ishtar qui renvoie à Gilgamesh, etc., faire sa quête, etc., et ensuite il se sépare de la puissance d'Ishtar, d'ailleurs. Et en fait, avec l'épopée de Gilgamesh, comme dans d'autres histoires, vous allez avoir beaucoup de mythes anciens considérés comme fondateurs, mais en fait sont destructeurs. Ils détruisent les puissances féminines. C'est le cas de l'Iliade et l'Odyssée de façon très très claire, et l'épopée de Gilgamesh détruit les puissances féminines, au bénéfice effectivement de puissances féminines qui vont être de plus en plus réduites et dissociées. Alors que Ishtar est une figure complexe, ce n'est pas une déesse qui aurait juste un attribut, elle en a beaucoup plus. Et d'ailleurs, vous avez juste ici cette idée que finalement, ça va être aux hommes de dompter les taureaux, et on va le voir quand on verra plus tard, Artémis d'Éphèse. Et voilà la porte d'Ishtar, hein, ici, donc à Babylone, les premières très grandes cités. Donc c'est y compris cette figure féminine associée à la cité dans ce qu'elle peut avoir de plus important. Et on voit ici, bon, d'ailleurs, encore, on va dire, deux types essentiellement d'animalité, toujours les bovins et les félins qui ont ces rôles différents. Et toujours Ishtar représentée. Alors, tantôt elle est représentée justement comme sur le lion, mais c'est aussi. Alors, c'est là il faudrait un avatar d'Ishtar, c'est pas un jeu de mots que je fais, mais où on la voit aussi cette fois-ci, alors très bien stylisée, comme une sorte d'écho lointain des figures de Çatalhöyük et des, entre guillemets, Vénus, avec les cuisses, etc. Les seins ici sont plus petits, mais elles les offrent quelque part en souricière, voie lactée, etc., etc. Hein? Et alors, Ishtar va devenir Inanna, mais ça on parlera plus tard de Inanna, surtout en Israël, Jordanie, etc. C'est une des figures essentielles. Et Ishtar, progressivement, on verra plus tard, deviendra Astarté, etc. Et y compris, on verra même Tanit. Vous avez des figures féminines en Tunisie, etc. Vous allez avoir des avatars complexes, mais avec presque toujours les mêmes attributs. Alors en Égypte aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Souvent, on démarre en Égypte, on pense les pyramides, les peintures. Donc, Égypte ancienne, 3 500 ans, effectivement, c'est un peu particulier, et dans lesquels vous allez avoir une sorte de rapprochement. Là, c'est moi qui le fais. Vous n'allez pas vérifier si c'est juste. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir ces figures féminines préhistoriques, prédynastiques, on va dire, qui sont très proches de Ishtar et des figures, on va dire, primitives, de silhouettes féminines, tout à coup qui lèvent les bras. Alors, on a vu qu'on avait ça aussi en Arabie Saoudite, les femmes qui levaient les bras, donc cette idée de rente de prière, etc., qui est de plus en plus utilisée et qui devient ici, alors là, vous me permettrez de le faire, mais les bras levés sans main commencent à se rapprocher des cornes, des bovins, etc. Et là, vous avez une stèle assez étrange où vous avez une figure d'étoile, mais qui évoque les cornes d'un bovin, le museau d'un bovin et les bras également. Et les figures bovines sont totalement signifiées par l'archétype d'une des figures essentielles de la divinité égyptienne, c'est Hathor, hein, qui va être cette déesse vache, figure féminine et des cornes. Si vous voulez, vous avez là aussi quelque chose qui va être et qui aura un rôle absolument essentiel, j'en parlerai. On va faire le cours sur les sacs du couple en Égypte. Et voilà. Alors, donc voilà, vous avez donc une évolution assez claire. Enfin, je dirais pas une évolution, mais des échos, comme s'il y avait une sorte de rivière souterraine extrêmement puissante qui perdure par-delà le mésolithique et même le paléolithique dans des civilisations ou dans des cités qui ne sont plus mésolithiques, qui sont installées. Alors, on verra que l'Égypte est bien particulière, justement, du point de vue y compris économique. Que l'Égypte n'a rien à voir, y compris avec les paysans et les éleveurs, et que l'Égypte, quelque part, perdure un rapport d'appropriation et de possession du vivant qui n'est pas celui des grandes cités, justement, du Proche-Orient, ou dans lesquelles vous avez effectivement une appropriation progressive du vivant et une hiérarchisation, etc. Alors, vous avez aussi des choses qui sont possibles. C'est d'associer la figure de Çatalhöyük à d'autres figures féminines qu'on retrouve dans plusieurs populations, dans plusieurs. C'est la femme accouchant en position. Alors, parce que certains ont pensé, c'est possible, on devine, certains ont pensé qu'entre les jambes de la figure trônante de Çatalhöyük, vous aviez une tête et que c'était peut-être une femme assise en position, accouchant en position assise. Puisque vous c'est une tradition assez étrange. Alors, en Égypte, en Grèce, en Anatolie, en Inde, des femmes ici accouchant. Et c'est devenu même un type qu'on appelle l'Ajagori, hein, et que l'on va voir, même, c'est assez étrange, jusque dans certains chapiteaux romans. Femmes grenouilles ou des femmes, etc. Avec cette idée d'accoucher, accroupie, etc. Donc, vous avez des éléments ici qui sont en tout cas strictement et spécifiquement féminins. Mais qui ont été très peu étudiés et commentés. Alors que C'est quand même un peu fou. Si on avait eu autant de statuettes et de sculptures masculines, je pense que vous auriez eu des textes et des textes et des textes. Là, c'est oh ben oui, c'est devenu. Oh ben oui. Alors, non, mais voilà. Et là, quand même, mais qu'est-ce qu'on en fait? On n'en dit rien. Oui, bon, c'est rendu anecdotique. Alors que c'est quand même crucial. Hein, y compris, ça pose une multitude de questions. Y compris, donc, vous avez là une zone, c'est vraiment un angle mort dans notre culture occidentale. Et pas que occidentale. C'est un angle mort, oh ben, oui, oh, on ne sait pas quoi dire, donc on n'en dit rien, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est, heureusement, on peut l'espérer, à venir. Alors, vous avez aussi quelque chose qui, plus proche de nous, corroborerait, si vous voulez, ce rapport assez étrange. C'est que, là aussi, par exemple, dans le Morbihan, sur l'île de Trévielle, près de Quiberon, vous avez une sépulture du néolithique, une nécropole qui est très importante, hein, qui est, alors c'est une propriété privée, donc il y a des fouilles, etc. Et dans laquelle, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des sépultures de femmes accroupies, enterrées, avec des bois de serre. Bois de serre, donc, c'est associé intéressant. Ça veut dire que là aussi, vous avez des femmes. Ce n'était pas n'importe qui, certainement, pour les enterrer comme ça, pour les enterrer avec des bois de serre vidées. Donc, c'est une certaine puissance aussi animale. En plus, le cerf, c'est un peu ambigu parce que c'est à la fois un ruminant, mais il est aussi sauvage, pas le domestiqué. Donc, il est les deux à la fois, d'où la beauté et l'importance, on verra, des figures de cervidés. On va la trouver longtemps. On va la trouver longtemps, y compris dans la représentation et dans les mythes. Donc, c'est quelque chose aussi qui est assez émouvant. Mais alors, c'est pareil. Pas beaucoup de textes sur Trévielle. Pas beaucoup de textes sur Trévielle. C'est avant Carnac, hein, on est quelques temps, on ne sait pas loin. Hein. Donc, si vous voulez, c'est aussi des civilisations complexes. Donc, on connaît très peu de choses sur lesquelles il y a très peu de fouilles. Alors qu'il y a une population forcément très importante. Elle est actuellement en 1000, mais vraisemblablement vers 9000, etc. La mer était beaucoup plus loin, elle était sur Terre. Donc, nécropole mésolithique, et on est à peu près à la même période. Donc, vous voyez que c'est vraiment une période de l'histoire de l'art qui aussi est là aussi. Non seulement la question féminine est un angle mort, tout le temps, enfin, sauf peut-être maintenant, heureusement, mais y compris la période mésolithique et cette idée du pastoralisme est assez étrange. Là où c'est assez bizarre, c'est qu'en Suède, on va retrouver la même chose. En Suède, on va trouver, alors ça c'est une reconstitution, celle qui est appelée la chamane 7000 aussi, Suède, elle est enterrée, elle aussi, avec des bois de cervidés, on le voit ici, et alors elle a été reconstituée. Ça c'est intéressant. C'est très intéressant. On sait maintenant de façon assez sûre, grâce à l'ADN, que les populations du nord de l'Europe, notamment les îles britanniques, la Suède, la Norvège et peut-être aussi le nord de la France, etc., avaient la peau noire et les yeux clairs. Une peau noire, très foncée, et des yeux bleus très clairs. Et donc là aussi, on est dans des représentations qu'il faut déplacer un petit peu nos représentations. Et là encore, vous avez une figure féminine enterrée, là aussi, avec une puissance animale et accroupie, c'est-à-dire sur position ben, comme assise. Ça nous ramène à cette idée du trône, de position assise, de quelque chose qui s'établit, etc. Donc, quelque chose. Et alors là, c'est pareil. On a trouvé beaucoup de documents. Hein. Ce document qui est ici un petit peu fantastique, puisque c'est un peu la figure qui est là. Alors, que, effectivement, parce qu'en fait, même si j'ai développé, mon cours est fait sur 1h30 à peu près. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut faire, par exemple, profiter de ce moment-là, c'est pour, dans ce cas-là, échanger et questionner. J'essaierai de, les cours suivants, ou alors on peut revenir sur des documents qu'on a vus, si vous voulez. Je vais interrompre quand même l'enregistrement.